One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Sarel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Yannick Granek.
Bonsoir, je suis Mathieu Lehaneur.
Et ce soir, elles et ils font battre le cœur des objets et interrogent la psychologie des murs.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
La culture sert à tout, même à fabriquer des bombes. Alors que les bombes russes de Vladimir Poutine se sont tues un instant dans le ciel d'Alep, laissant retomber sur les civils et les rebelles rescapés la poussière des bombardements, et alors que nous recevons ce soir une romancière, dont le dernier roman est traversé par le spectre de la guerre, et un designer, une question m'est tombée dessus. Y a-t-il des gens qui s'occupent du design des bombes ? Des petits salauds, comme l'écrit Albert Cohen dans Frères humains, qui dessinent et conçoivent la plastique fuselée des missiles. Et j'ai soudain été percuté par les travaux du designer sud-coréen Jin-Wook Wang, habitué aux alertes à la bombe venues de chez son voisin de Corée du Nord, et surtout frappé par les bombes bourrées de bonbons, larguées par l'américain Gail Halvorsen sur Berlin en 1945, Wang a décidé de designer des bombes verte, s'inscrivant dans la lignée du guérilla gardening, du jardinage guérillero des années 70, des bombes vertes à fragmentation qui, après avoir été larguées par un avion, s'éparpillent façon puzzle et ventilent, par exemple sur des régions désertiques, des capsules biodégradables contenant chacune du substrat, des nutriments et une plante, et qui se fichent dans le sol, fonctionnant d'abord comme des mini-serres avant de se désagréger tout doucement. Et une fois de plus, je me suis dit que les designers étaient de drôles de pistolets. Alors qu'on écoute un morceau de krautrock, inspiré, dit-on, par les bombardements sur Essen à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justement, je me tourne vers vous, Yannick Granek, dont le père, militaire, a œuvré dans l'aviation, et il vous a habitué, toute petite, à aller voir des présentations, des exhibitions, notamment d'hélicoptères. Est-ce que vous, qui avez fait des études de designer industriel, avant de devenir romancière avec la déesse des petites victoires, et aujourd'hui avec le bal mécanique chez Anne Carrière, est-ce que, enfant, vous avez été touché par le design de ces hélicoptères et peut-être des missiles qu'ils transportaient?
Peut-être pas directement sur le design des missiles, mais oui, j'ai passé beaucoup de temps sur les tarmacs enfant, et j'ai toujours été fascinée par à la fois par les hélicoptères et les avions en général. Je pense même que ma première impression, ma première libido s'est faite sur L'étoffe des héros. C'est à la fois un livre et un film culte pour moi. Et Alors c'est une fascination qu'on peut trouver morbide, parce que ce sont des objets de guerre, mais ce sont aussi des objets technologiques merveilleux. Et c'est le propre de la technologie, elle est neutre la technologie, elle est ce qu'on en fait, elle peut être un objet d'avancée comme un objet de destruction.
Mais souvent elle sert d'abord à faire la guerre, avant de servir heureusement à autre chose.
Oui, malheureusement on dit qu'il faut une bonne guerre pour faire avancer les technologies.
Mais il y a un très beau
Mathieu Lehaneur.
Il y a un très beau projet qui a été fait par un designer afghan assez jeune, qui consiste en fait à pouvoir déminer, et de façon absolument naturelle, non mécanisée, non énergétique, si je peux dire, des champs laissés vacants et truffés de mines. Et le système, en fait, vous imaginez une sorte de gros pissenlit. C'est comme une grande sphère comme ça, qui doit faire pas loin de 2 mètres de diamètre, avec un noyau central très dur, sur lequel on va planter sur toute la circonférence, comme un grand pissenlit comme ça, plein de bambous. Et au bout des bambous, des petites galettes. Et c'est posé dans un champ. Et lorsque le vent se met à souffler, il va faire rouler ce gros pissenlit géant, mais comme un fétu de paille. Et le poids du noyau central de ce pissenlit va être suffisant pour faire déclencher les mines. Alors, ensuite, on n'a plus qu'à changer finalement tous les bambous qui ont explosé en vol. Mais c'est un très très beau projet qui n'est pas, à mon sens, encore mis sur le marché de la guerre, si je peux dire. Mais les designers peuvent aussi se charger de non pas dessiner des missiles, mais de pallier ensuite les effets indésirables.
Vous travaillez aux confins du design, de la science, de l'art et de la technologie pour le mieux-être des utilisateurs. Donc ça doit vous paraître assez fou qu'on l'utilise dans l'autre sens. C'est l'inverse de votre projet.
Sauf que le projet que je vous décris, il est plutôt dans le bon sens pour le coup. Il est plutôt dans le bon sens, mais c'est vrai que le designer doit quand même toujours négocier, si je peux dire, avec le monde tel qu'il est. Donc le monde n'est pas qu'une chose belle et merveilleuse, comme on le sait. Donc on a des clients qui viennent vous voir, des commanditaires quels qu'ils soient, et ensuite libre à chacun de répondre à la commande. Et une fois qu'il y répond, libre à chacun d'y répondre de façon simpliste ou primaire, ou d'utiliser aussi comme un cheval de Troie pour essayer de faire autre chose. Donc on a entre les mains des manettes assez efficaces. Ensuite chacun mène sa barque comme il l'entend.
Mathieu Lehaneur et Yannick Granac.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
You place the flowers in the vase that you bought today.
Ping pong. C'est sur France Culture.
Our house is a very, very, very fine house. With two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. And I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today.
Bill Crosby et Nash Our House, fondu au blanc, c'est la musique d'OMJ, l'émission de l'un de vos personnages, Yannick Granac. Il est animateur à Chicago dans une émission de télé-réalité qui tourne à 10 millions de spectateurs et qui mêle décoration d'intérieur et thérapie familiale. En apparence, tout va bien, mais Our House, notre maison, est chargée de choses que nous portons, que nous respirons sans le savoir. C'est cette matière invisible que vous faites apparaître dans ce roman, Le bal mécanique, Yannick Granac.
Oui, c'est une métaphore des valises familiales, tout simplement, de toute cette intimité qu'on trimballe avec nous, de ce qui nous pèse, en fait, tout simplement, et en particulier de tout ce qu'on hérite du passé, des générations antérieures, des valises qui sont parfois lourdes de drames, et quand on est bien incapable d'ouvrir tout seul. On se balade parfois avec un malaise dans sa vie. On est un peu de travers, comme les mon personnage qui pense que tout va bien, mais finalement, tout ne va pas si bien. Et il fait semblant, il fait avec. Tout simplement parce que son père et le père de son père avant lui et la mère de son père, enfin, il y a un engrenage, ça s'appelle le bal mécanique, ce n'est pas pour rien, c'est un engrenage mécanique, un engrenage névrotique qui fait que de génération en génération, on se balade des choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent d'avancer, tout simplement.
Et Yannick Granac, ce roman, donc Le bal mécanique, s'ouvre sur la vie trépidante de Josh, donc animateur de télévision à Chicago, qui, comme le disait Mathilde, se mêle de retaper, de customiser, de reconditionner des maisons et des familles.
C'est mais au cœur, Valérie Damido, en fait.
à l'américaine, encore plus dictatoriale, pour reprendre un terme qu'il s'applique volontiers. Et au cœur de votre roman, il y a le Bauhaus, cette histoire de cette école qui a évidemment marqué en particulier l'architecture depuis Weimar en passant par Berlin, donc dans l'entre-deux-guerres, et qui est donc connue pour les maisons que notamment les élèves du Bauhaus ont pu laisser. Et la maison, et dites-vous, dans le bal mécanique, est comme un organisme humain. Mais alors, est-ce que votre livre, tel que vous l'avez conçu, a quelque chose d'une maison lui aussi, avec à la fois sa dimension organique et avec toute sa complexité qui était chère au tenant de l'architecture du Bauhaus?
C'est une maison à multiples pièces et à multiples entrées, avec des sous-pentes cachées, des escaliers qu'il faut monter qui mènent à rien, et puis par contre des malles dans le grenier pleines de trésors, puisqu'il y a effectivement un trésor caché qui est le trésor des nazis, un trésor de tableaux spoliés par les nazis à Theodor Grenzberg, donc qui est l'arrière-grand-père de Josh. Mais c'est une maison qui qui a le double, parce que c'est pas Amityville, on va pas aller jusque là, mais qui est le, c'est la double aspect de l'intimité et de la famille. C'est-à-dire que c'est à la fois un cocon protecteur et c'est à la fois un carcan et qui bribe toute envie de singularité et besoin de liberté d'un individu. Ce que va chercher le deuxième personnage, qui est Magda, donc la fille de Theodore Greensberg, qui elle va tout remettre en question et tout, elle va quasiment mettre le feu derrière elle pour pouvoir vivre sa liberté, en particulier sa liberté de femme et sa liberté politique. Elle fait table rase. Donc elle représente en quelque sorte l'adolescence du XXe siècle où elle est moderne. Donc en pleine explosion de radicalité et en recherche d'absolu, aussi bien en termes politiques qu'en termes esthétiques. Ce qui correspond à la période du Baos, à la deuxième période du Baos, en fait, à Dessau, qui est fortement imprégnée de, au départ socialisme, et puis à la fin, une bonne partie des professeurs étaient plutôt marxistes, et en particulier le directeur. Donc, je vais pas peut-être tout développer l'histoire, mais bon.
Faut quand même laisser aux gens la possibilité de lire votre roman, Yannick Granek. Éventuellement, mais c'est vrai que là, on l'a compris, on se déploie sur 4 générations, on va rentrer un peu dans les plis de l'humain, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se transmet et aussi à donner de la chair à quelque chose qui peut être perçu comme ça dans les écoles d'art ou tout simplement, ou les écoles de design, ou même en général dans l'enseignement, comme quelque chose de froid, qui est l'époque du Baos. On rentre pas dans l'humanité des personnages et de ceux qui l'ont fait. Et justement, je trouve que votre travail de romancière, il est assez proche de celui de Mathieu Le Hanner, parce que finalement, vous, Mathieu Le Hanner, bon, ce qu'on va voir en ce moment, ce marbre liquide du côté de Londres, on peut l'évoquer, mais on peut aussi évoquer ce purificateur d'air que vous avez créé, qui s'appelle Andrea. Vous purifiez aussi l'atmosphère, les rapports, vous vous posez des questions par rapport aux utilisateurs. Qui sont-ils? Qui sont ces humains? Comment est-ce que je vais répondre à leurs besoins? Donc, est-ce que vous ne posez pas des questions de romancier, vous aussi, dans ce que vous bâtissez?
Je ne sais pas si je me pose des questions de romancier. Par contre, je me pose des questions de scénario. C'est-à-dire que pour dessiner un produit, pour concevoir un objet, ma priorité n'est pas de créer une belle forme. C'est assez facile de créer une belle forme. Tout le monde ou presque peut le faire et créer un bel objet. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'imaginer comment cet objet-là va vivre avec vous. Et pour ça, en fait, j'essaie non pas de prendre une feuille, un crayon et commencer à gratouiller quelque chose, mais d'essayer plutôt en fermant les yeux, d'essayer d'imaginer des personnes vives, quel que soit le contexte, que ce soit un hôpital, une maison, l'extérieur et autres, et voir comment un objet va pouvoir vivre avec ces personnes-là et comment sa fonction va faire qu'effectivement, il va, si possible, améliorer à sa petite mesure notre vie. Le purificateur d'air que vous évoquiez, auquel j'ai donné le prénom de mon fils parce que je me suis bien dit que c'était pas forcément pour ma génération, mais peut-être pour la suivante, qui en aurait encore plus besoin.
Notamment à cause des meubles Ikea auxquels rêve le personnage de Yannick Granek.
Oui, effectivement.
Genre de particules.
Exactement, parce qu'effectivement, on vit aujourd'hui dans des habitats qui sont, et la table autour de laquelle nous nous trouvons, fait semblant qu'elle est en bois, mais elle est en fait une espèce de copeaux de particules agglomérés avec de la colle, un stratifié au-dessus qui est essentiellement chimique, et donc tout ça vient du pétrole, et tout ça, même 10 ans après sa fabrication, continue d'exhaler des particules toxiques. Des benzènes, des trichloréthylènes, des formaldéhydes, toutes ces choses assez poétiques à l'oreille, et qui sont en fait des éléments toxiques, gazeux, assez puissants, assez toxiques. Et le principe de ce purificateur d'air, en fait, a été d'enfermer une plante. C'est un objet qui fait une 40aine de centimètres de diamètre, qui est une sorte de forme comme ça, un peu comme une gélule. Il y a une partie opaque en partie basse, une partie transparente en partie haute, et au cœur duquel il y a une plante. Et cette plante-là, par un système de ventilation, va faire le travail travail finalement d'absorber, de digérer, de casser ces molécules absolument toxiques. Donc c'est un objet qui effectivement est un objet plutôt étrange. À la fois je le vois, je comprends que il est naturel en partie, artificiel d'une autre. Je comprends que il va prendre soin de moi. Je comprends que il y a une sorte de circuit d'air qui s'y déroule. Donc ensuite, est-ce qu'il va m'envoyer de l'oxygène? Est-ce qu'il va absorber? Tout ça n'est pas clair si je ne fais que le voir. Par contre, l'objet, sans même que je le sache, va en permanence nettoyer l'air qu'ensuite je vais respirer.
Yannick Granec, on l'entend dans ce que dit Mathieu Lehaneur de son Andrea. Donc il y a du vivant, de l'organique au cœur de l'objet industriel, forcément, puisque c'est un objet designé qu'il a conçu. Et c'est aussi une affaire de transmission, d'héritage, puisque cet objet porte le nom, le prénom de son fils. Et votre balle mécanique, votre roman chez Anne Carrière, avec Josh, avec Karl, avec Théodore Grenzberg et Magda, c'est une histoire de généalogie et c'est aussi une histoire d'héritage. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu, puisque l'organique au cœur de ce roman, c'est vous. Et d'ailleurs, il y a une sorte de caméo, on n'en dira pas plus, de l'auteur elle-même dans le bal mécanique. Mais parlez-nous de votre héritage et peut-être, comme pour votre personnage de Josh, du malaise qu'il a pu provoquer chez vous, vos valises à vous, et peut-être les solutions, si c'est moins impudique, les solutions, ce qui vous a poussé à inventer cet héritage familial.
Si j'avais envie de déballer mes valises, j'aurais fait une autobiographie ou un récit. Là, il s'agit d'un roman. J'avance masqué, c'est bien plus simple. En fait, il y a une bonne partie du livre qui vient de cours que j'ai suivis à la faculté de Toulon, des cours chapeautés par Boris Cyrulnik et qui traitaient d'éthologie humaine en général et de la théorie de l'attachement en particulier et de la psychogénéalogie. Et pour l'anecdote, en fait, j'ai suivi ces cours avec mon petit frère. Bon, mon petit frère qui a 40 ans, mais il restera toujours mon petit frère. Et nous avons fait effectivement une sorte de thérapie familiale tous les deux au fond de la classe pendant 2 ans. C'était bien pratique. On aurait dit les deux vieux du mopette qui se marraient à la fin, au fond de la classe. Mais ça nous a fait beaucoup réfléchir. Effectivement, la parole est hyper importante. C'est un truisme, mais... ce qui plombe la plupart du temps les familles, c'est le secret, c'est les taiseux, c'est le fait de ne pas formuler le problème. Après, il ne suffit pas de le lire, ça. Il faut parvenir à le faire en vrai. C'est le plus compliqué. Je trouve ça beaucoup plus facile d'écrire sur les névroses des autres et d'inventer des secrets de famille.
Je pense juste à une chose. Il y a une très belle...
Mathieu Lehaneur.
Névrose, parce qu'on parle d'architecture et vous parliez en préambule d'armes, il y a une magnifique névrose qui est celle de la veuve Winchester, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est la veuve de Monsieur Winchester, qui a quand même produit un certain nombre de fusils et de carabines, et qui et se retrouve en veuve, en fait, et probablement dans une infinie culpabilité, même si elle la vivait par procuration, mais a construit sa maison, ou plutôt a acheté une maison, une bâtisse ancienne, et elle était persuadée ensuite que des fantômes, peut-être les fantômes des personnes tuées par les fameuses Winchester, allaient revenir la hanter, et revenaient d'ailleurs la hanter. Et en fait, pour pallier à ça, elle était richissime, elle ajoutait des maisons et des couloirs sans fin à sa maison, donc c'est devenu une chose absolument colossale, absolument labyrinthique, avec des escaliers ne menant à rien, des couloirs ne menant à rien, des chambres sans fond, des portes n'ouvrant sur rien. Et ça, en fait,
pour
perdre les fantômes qui venaient se venger de tout le mal qu'avait fait son mari et ses objets Winchester.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire à propos d'une œuvre architecturale? Ouh là là, celle-là, elle est hantée par la veuve Winchester quand c'est un dédale, on va dire, de cul-de-sac et de non-logique. Mais justement, bon, dans la construction architecturale, c'est un truisme aussi d'un roman. Il y a forcément, voilà, ces notions d'échapper. On va pouvoir, avec vous, se libérer aussi en se puisant. Dans le passé, dans l'histoire du Baos, où vous allez nous faire rentrer dans la logique intime peut-être de cette institution. C'est vrai qu'on a des idées sur le Baos qui sont très comme ça picturales, et beaucoup moins peut-être sur l'allure des fêtes, sur ce qui pouvait s'y passer en termes de peut-être de vie libre, voire libertaire dans ces soirées du Baos. Donc est-ce que là aussi vous n'avez pas fait échapper un peu de joie dans cette entreprise intérieure qu'est le bal mécanique?
Oui, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai fait ma recherche documentaire, en particulier en me gavant de tout ce que j'ai pu trouver comme iconographie, tout simplement, c'est la joie. C'est toutes les fêtes, les bals, costumés, la musique, les scènes de saut et de gymnastique. Tout a été extrêmement documenté par les élèves eux-mêmes, en particulier un certain Lux Feininger, qui était un jeune étudiant, qui a fait énormément de prises de vue à la fois très libres, très joyeuses et très inspirées par les Russes et par l'esthétique constructiviste. Donc c'est un joyeux bordel, c'est un joyeux foutoir. Et ça m'a beaucoup touchée, tout simplement aussi parce que ça me rappelait, puisqu'on est dans la case psychothérapie ce soir.
Oui, psychogénéalogie.
Psychogénéalogie. Ça m'a... Et Boris Cyrulnik nous écoute.
Bonsoir Boris. Ça m'a rappelé beaucoup ma propre jeunesse étudiante. Et puis, ce qui est drôle ce soir, c'est qu'on a partagé un bout de notre jeunesse étudiante. On n'était pas dans la même promo, mais on a la même alma mater.
Avec Mathieu Lehanner,
qui est les ateliers Lancy, qui est
les ateliers Saint-Sabin.
Les ateliers Saint-Sabin, qui est une grande école de design française.
Réputée pour ses fêtes.
Réputée pour ses fêtes, moi aussi. Et le programme pédagogique était au départ fortement inspiré de celui du Bauhaus, en particulier pour la première année propédeutique, la première année de générale où toutes les classes d'âge étaient mélangées.
Alors, est-ce qu'elles se ressemblent finalement, ces écoles, vous qui maintenant connaissez bien les deux?
Oui, il y a beaucoup de points communs. Donc effectivement, la première année générale, le fait que les gens pouvaient à peu près choisir leur cours, le fait que ça se passe autour de maîtres, avec un jeu de filiation et d'affiliation qui est aussi très psychogénéalogique, puisqu'on a tous des amitiés ou des inimitiés avec des professeurs.
Rappelons que c'est une école de design, l'École nationale supérieure de création industrielle.
Oui. Bah, c'est le terme français, création industrielle.
Établissons un reçu. Bon, eh bien, si vous voulez bien écrire, je sous-signais nom, prénom, adresse. Déclare céder à monsieur Robert Klein pour une somme convenue un tableau d'Adrien Van Ostade et qui représente le portrait d'un gentilhomme hollandais depuis Paris, 16 janvier 1942, et vous signez. Récemment, beaucoup de clients comme vous sont venus me voir avec une grande urgence de vendre. Et je vous assure que c'est très désagréable pour moi. C'est embarrassant. Et au revoir, monsieur. Bon voyage et bonne chance.
Bonne chance à vous, monsieur Klein.
Monsieur Klein, film de Joseph Losey, on aura peut-être reconnu la voix d'Alain Delon dans le rôle titre, qui nous raconte comment voilà ce marchand d'art en 1942 fait des affaires très intéressantes au moment où un certain nombre de Françaises et de Français, juifs, disons-le, cherchent à quitter le territoire et se débarrassent pour l'occasion de trésors de famille, qui sont pas forcément des secrets de famille, des tableaux, et un extrait de film, un film qui résonne avec votre balle mécanique, bien sûr, Yannick Granek, qui se nourrit non seulement de la réalité de l'histoire du Bauhaus dont on vient de parler, mais aussi de cette affaire Gurlitt, de tous ces tableaux retrouvés en Autriche chez ce vieux monsieur, ce vieux garçon qui l'étonnait de son père, marchand d'art, qui avait fait de belles affaires au moment où on spoliait les biens juifs et où les juifs cherchaient à quitter la vieille Europe. Et à propos de cette présence de la spoliation des biens juifs dans votre roman, je suis, comme souvent, c'est un de mes torts, je suis allé voir l'étymologie de ce terme spolier, qui est assez fascinant. Et spolier, ça veut dire dépouiller et ça veut dire déshabiller. Or, en spoliant les biens, et notamment les biens artistiques, les œuvres d'art, on a déshabillé les gens de tableaux, de sculptures, et il y a, en épigraphe de chacun de vos chapitres, une œuvre iconique de l'art européen. Est-ce que pour vous, une œuvre d'art peut constituer une peau, un vêtement pour un être humain?
C'est l'expression de son intimité la plus profonde, pour le choix. C'est le choix qu'on fait, parce que si on ne projette pas une œuvre d'art, mais qu'on choisit une œuvre d'art, c'est une part de soi-même qu'on y place. Donc je pense que oui, effectivement, c'est le terme déshabillé est vraiment approprié. Ils se sont retrouvés à poil, tous ces gens-là, à poil de leur vie, de leur nationalité, et de tout ce qui faisait leur leur au-delà même qu'on leur a appris leur vie, mais c'est aussi leur pulsion de vie qu'on leur a appris, tout simplement. Par exemple, mon personnage Théodore Grinsberg, il est marchand d'art, lui il ne vit que pour ça. C'est sa fibre même qu'on a touchée. Et ça, évidemment, je peux rien raconter sans spoiler absolument tout le livre. Donc c'est très très compliqué.
Il avait déshabillé votre livre.
Oui. Et comment raconter sans raconter? C'est très compliqué tout ça.
Moi, je vous propose de revenir sur votre galerie, justement. Ouais. Martin l'a dit en passant, c'est vrai que les écrivains, les romanciers ont tendance à mettre une citation, une épigraphe comme ça en début de chapitre. Vous faites donc ce mouvement qui est d'avoir une galerie invisible et qui est de citer une œuvre d'art à chaque début de chapitre qu'on ne voit pas. On a par exemple un dessin de Léonard de Vinci, on a un autoportrait de Matisse, on a Ad Parnassum de Paul Klee. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre galerie personnelle? Que font ces œuvres-là au début des chapitres, Yannick Granek?
C'est mon petit musée intérieur, tout simplement. Ce sont toutes les œuvres auxquelles je suis attachée. C'est peut-être ma façon même d'écrire, tout simplement. C'est que je suis quelqu'un qui vient du dessin, qui vient plus de l'image que de l'écriture. Et avant d'écrire tout simplement une scène, je la vois tout. Je la vois, et très souvent, je fais référence, je prends en référence un tableau que j'aime ou une photographie que j'aime. Et donc, par exemple, pour le bal mécanique, il y a à la fois des tableaux qui sont dans la narration, qui sont objets de narration, et des tableaux qui sont source d'inspiration plastique, tout simplement. Et il y a un tableau qui est une gravure de Dürer, qui est une touffe d'herbe, qui m'a servi d'inspiration pour écrire une scène qui se passe à la guerre de Corée en 53. Bon, il y a 500 ans de différence, mais peu importe, on s'en fout. C'est Malik quand il fait la ligne rouge.
Terence Malik.
C'est pareil, c'est ces mêmes herbes et la fascination, la poésie des herbes qui dansent et l'éternelle beauté par rapport au carnage qui existe 2 mètres à côté. Pour moi, c'est tout ça, c'est une seule et même filiation. On parle encore de filiation. C'est la filiation artistique, que ça soit une œuvre qui date d'il y a 500 ans ou de quelque chose que j'irai voir à la FIAC demain. Peu importe, tout ça est de la matière. Et c'est de la matière à écrire.
Mathieu Lehaneur, vous inventez aujourd'hui des objets pour demain, pour les générations futures. Vous inventez des formes neuves avec des concepts industriels et technologiques qui sont neufs. Mais est-ce que il y a une part de votre inspiration qui est aussi à trouver du côté des arts plastiques, des arts visuels, comme c'est le cas pour Yannick Granek?
Oh oui, très clairement. Ou consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Mais effectivement, on est bombardé en permanence d'images, et qu'elles soient artistiques ou non, mais on est bombardé de signaux et d'informations visuelles en permanence. Et ça, évidemment, depuis notre plus jeune âge. Ce qui se produit, et dont je suis de plus en plus conscient, c'est que on met... Et pas que le designer, je pense, mais on met en place un certain nombre de filtres qui font que ces multiples signaux visuels, on va en garder quelques-uns. Et parfois,
par exemple,
s'il
y avait une de vos œuvres, de vos chefs-d'œuvre invisibles jusqu'à présent.
Bah, tout à l'heure, on parlait du du purificateur d'air Andrea, et je vous le décrivais comme ayant une partie opaque, un peu technique sur la partie basse, et une partie transparente en partie haute, en gros à parts égales. Et je l'ai dessiné parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique, cohérent et en termes d'objet, de ce que je voulais passer comme message et en termes ensuite de production. Et je me suis rendu compte 2 ou 3 ans après qu'en fait cet objet-là venait directement du robot du Capitaine Flamme. Le robot du Capitaine Flamme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une sorte d'objet qui vole comme ça, un peu en gravitation dans le vaisseau spatial. Il est à 2-3 mètres au-dessus du sol. Sa partie basse est opaque, sa partie haute c'est en fait un cerveau qui est chapeauté d'un dôme comme ça transparent. Donc moi le cerveau est devenu une plante, mais je me suis rendu compte effectivement que l'objet venait évidemment, absolument du Capitaine Flamme. Donc on n'est pas dans une culture littéraire extrêmement élaborée, parce que c'est du dessin animé japonais, pas de bas étage.
Oui, c'est pas Dürer.
C'est pas Dürer, mais c'est un signal visuel. Voilà.
En même temps, attendez, il ne faut pas commencer
en même temps,
à
faire
des généalogies entre les cultures. Hein, attention, temps, hein, pourquoi pas.
Il y a une généalogie sans doute.
C'est intéressant. Attendez, vous voulez réagir, Yannick Granek?
Non. Oui, je voulais rebondir sur cette saturation d'images et d'input qui constitue vraiment ce qui est le propre de notre modernité. Et il y a un psychologue hongrois dans les années 70 qui a développé quelque chose là-dessus et qui parle du flow et qui parle de l'entropie psychique, c'est-à-dire le fait que le cerveau est sursaturé d'informations, sursaturé d'images et n'arrive plus à créer, n'arrive plus à penser.
Et c'est pas un certain Zygmunt Bauman?
Non, c'est un nom de chèque imprononçable avec des cèdes et des édits partout. J'aime beaucoup me servir d'une œuvre d'art ou d'un morceau de musique pour lutter contre cette entropie psychique, pour laver justement, pour voilà. Un peu de musique maintenant.
Très très bien.
Exactement, ça tombe très bien, Yannick Radek.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong et à suivre dans un instant sur France Culture, bien sûr, et bien une plongée dans le marbre liquide et dans les cerveaux en flammes des objets thérapeutiques de Mathieu Lehaneur et toujours dans la double vie de Yannick Granec.
À partir de quel moment, pour vous, commence la musique ?
Il y a mon mari qui écoute.
Enfin, il y a mon mari, j'ai pas de double vie. Bon. C'est dit, Yannick Granec, c'est une double vie littéraire, évidemment. Nous habitons les œuvres ici, hein. C'est notre maison, c'est comme ça qu'on l'a bâti ping-pong. On va rentrer justement dans le travail musical de quelqu'un qui pourrait vous parler à tous les deux. Mathieu Lehaneur, vous arrivez donc à rendre le marbre liquide. Yannick Granec, vous questionnez le cœur du Barros, pas seulement comme mouvement artistique, mais presque comme mouvement émotif. Il faut le rappeler, cette phrase de Schlemmer, hein. Dès le premier jour de l'existence du Barros, la scène était présente, car dès le premier jour, la pulsion du jeu était présente. Il s'exprimait dans nos soirées exubérantes, dans les improvisations et dans les masques et les costumes imaginatifs que nous réalisions. Et bien, il y a un homme qui est un performeur, un homme machine, un artiste multipiste, s'appelle Jamie Liddell. Il va partir de l'électro stridente pour passer au son pop, pour accompagner des mélodies soul, building a beginning, c'est-à-dire construire, bâtir un commencement. Voilà le nom de son nouvel album, une entreprise de design sonore, donc avec un cœur soul, des textures modernes et surtout une sensibilité masculine affirmée.
There's a song I sing when it's so hard to see. We'll be right back.
En écoutant les petits sons de comètes et de fusées de ce titre de Jamie Liddell, nous nous disions « Jamie Liddell, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversée décidément. » Capitaine Flamme est avec nous. Jamie Liddell, « How did I live before your love ?» Une vraie question sensible, une déclaration d'amour sur scène. Ce sera ce soir, si vous avez un petit peu de temps. Là, vous partez maintenant, vous pourrez voir Jamie Liddell, donc au Trianon à Paris.
C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Ping pong. C'est sur France Culture. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé. Mais je ne vais pas travestir la vérité. Je ne suis pas un gentil garçon. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi.
Certains se prennent pour des héros modernes en cherchant à pénétrer et à dompter notre cerveau, le tenir en laisse pour nous vendre des objets. C'est un extrait du film de Yann Kounen, 99 francs, d'après les mémoires romancées du publicitaire Frédéric Becbédé. Mais en amont de ceux qui cherchent à nous vendre pour 99 francs ou 14,99 € des objets en nous manipulant le cerveau, il y a ceux qui les conçoivent. Et il se trouve, Mathieu Lehner, que vous faites partie d'eux, vous, le designer, dont on peut découvrir notamment les œuvres au domaine de Chaumont-sur-Loire, jusqu'au 2 novembre, pendant encore quelques jours, votre marbre liquide, Petite Loire, ça s'intitule, et vous êtes vous-même curieux du cerveau. Alors il y a ce cerveau dont on parlait dans le dessin animé Capitaine Flamme, et au-delà de ça, après avoir un peu raté vos études scientifiques, vous vous y êtes remis à l'étude du cerveau, mais avec vos outils de créateur industriel. Et justement, à propos de cerveau, en quoi l'étude de cet organe, de ce noyau, comme vous le dites, du corps humain, a, plutôt que de trouver des moyens pour nous dompter, a fait jaillir quelque chose d'inattendu chez vous?
En fait, moi, pendant toutes mes études de design, on nous parlait beaucoup de l'ergonomie. L'ergonomie, par exemple, c'est l'étude un peu fine du corps humain, de son anatomie, de ses articulations, etc., pour pouvoir concevoir un fauteuil, un canapé qui produirait du confort. Et finalement, j'ai eu l'impression au fil de mes études que on passait quand même pour une bonne part à côté de l'élément qui me paraissait encore plus intéressant que mes fesses ou de l'articulation de mes genoux, qui était en l'occurrence mon cerveau. Alors sans doute pour une raison assez simple, c'est que mes genoux sont plutôt plus simples que mon cerveau, et que la compréhension fine du cerveau est un peu complexe. En l'occurrence, je n'ai pas du tout les compétences scientifiques pour l'étudier. Mais c'est vrai que même si j'ai pas du tout ce passé-là, ni ces connaissances-là, c'est un élément qui m'intéresse au plus haut point, parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être par là qu'on va pouvoir apporter peut-être des réponses un peu plus fines, un peu plus pertinentes à des problématiques qui parfois peuvent être très très loin de des sciences cognitives ou des neurophysiques, quelles qu'elles soient. Donc j'essaie toujours à chaque fois de l'analyser, mais d'essayer de comprendre comment ça se joue. Je vous donne un exemple très très concret. On a tous les deux dans la poche, vous et moi, une cigarette électronique.
C'est pas à qui vous vous adressez.
Non, peut-être à vous, mais je ne sais pas. Et peut-être qu'avant cette cigarette électronique, on avait tous les deux dans la poche un paquet de cigarettes. Et on sait qu'effectivement, la cigarette, de par tout un tas d'adjuvants chimiques, crée des addictions extrêmement, extrêmement puissantes qui vont justement activer des récepteurs dans le cerveau, etc., etc. Sauf que on se rend compte, et ça depuis les années 50, dans les cartographies du cerveau, par exemple, de gens comme Penfield, qui ont en fait découpé le cerveau, non pas mécaniquement, mais on a étudié le cerveau pour voir les places qu'occupaient les différents organes du corps humain. Et on se rend compte de quoi ? On se rend compte que les parties qui occupent le plus de place, la plus grande géographie, la plus grande surface dans le cerveau, ce sont nos doigts et nos lèvres. Et donc, ça rend beaucoup plus évident lorsque le nouveau-né arrive au monde, pourquoi la première chose qu'il fait, plutôt que de dire bonjour papa ou bonjour maman, c'est de mettre tout de suite ses doigts à sa bouche, parce qu'effectivement, le cerveau active et réactive ces éléments-là. Mais on peut évidemment comprendre de façon peut-être plus claire aussi, pourquoi une cigarette, avant même qu'elle soit allumée, avant même qu'elle chimiquement agisse sur nous, pourquoi déjà l'activation de nos doigts et de nos lèvres est déjà un ressort extrêmement puissant. Donc, pour quelqu'un qui a pour vocation de concevoir, dessiner des objets quels qu'ils soient, c'est important d'avoir aussi quelques éléments comme ça en tête, parce que c'est des choses qui vont agir en dehors de la culture, c'est des choses qui vont agir en dehors de la connaissance, en dehors de la reconnaissance des choses. Je reconnais que c'est une chaise, je reconnais que c'est une lampe, je reconnais que c'est un micro, mais sur des paramètres, des stimulations immédiates, primitives, de ce que nous sommes très profondément. Et ça, j'ai l'impression que pour un designer, c'est des manettes un peu compliquées à manipuler, mais beaucoup plus intéressantes que de prendre son crayon et de tracer la plus belle courbe possible pour en faire un pied de chaise ou une voiture.
Au début de cette émission, Mathieu Lehaneur, on a évoqué la technologie au service de l'armement. C'est vrai qu'on peut le repréciser en deuxième partie d'émission. Vous avez un a priori neutre, comme Yannick Granet qui est à côté de nous, sur la technologie. Elle est ni bonne ni mauvaise. En revanche, vous avez une intention positive à son égard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit que de toute façon, que ce soit dans la domotique, dans le design, etc., il va falloir, comme vous le dites, réinterroger l'utilisation de ces technologies dans l'espace. Donc, est-ce que c'est pas extrêmement excitant pour vous, le designer du cerveau, aujourd'hui, en 2016, d'essayer de penser cet environnement futur? Et justement, quelles sont les voies, par exemple, qu'il faut éviter d'employer, celles peut-être dans lesquelles on est peut-être déjà un peu engagé?
D'abord, je m'intéresse plus au présent qu'au futur. D'abord parce que les designers du futur dessineront le futur et que ce serait bien présomptueux de ma part de préempter ce que sera le futur. D'abord, je n'ai aucune idée. Et puis surtout, voilà, qui suis-je pour dessiner le futur? Donc, j'essaie déjà de faire le présent et il y a déjà de quoi faire. Effectivement, la technologie, elle est en soi ni bonne ni mauvaise, mais de même que le silex n'est ni bon ni mauvais. Avec un silex, je fais un feu, je fais une maison, mais j'en fais aussi une machette, potentiellement pour dégommer mon voisin. Donc, effectivement, les objets, les systèmes, les outils, les technologies sont en soi effectivement ni bonnes ni mauvaises. Après, tout dépend de ce que vous en faites. Je vais vous donner un exemple très concret d'un projet que j'ai fait récemment utilisant de la technologie, et même une technologie un peu compliquée, qui était une commande très particulière, qui était pour un service de soins palliatifs. Donc un hôpital, un grand hôpital parisien, me commande quelque chose, je savais pas très bien quoi, pour aider finalement des patients en fin de vie qui vont vivre leur dernière semaine ou leur dernier jour. Et il m'explique effectivement, le service est d'une très grande qualité, mais qui manque quelque chose, qui manque, est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est une œuvre de design, ils savent pas très bien. Et donc je leur ai proposé en fait d'installer dans chacune des chambres, qui en compte une petite vingtaine, un objet technologique pour le coup, qui est une sorte de hublot et qui est une sorte de fenêtre supplémentaire. Le principe, c'est qu'en fait l'objet est connecté en permanence à des grands sites de météo mondiaux. Et l'objet va reproduire en temps réel, visuellement, en animation, ce que sera exactement le ciel du lendemain. Donc on a un objet dans les chambres, à côté de la télévision, assez technologique. Il y a un écran de LED, il y a un ordinateur, il y a des connexions Wi-Fi, il y a des microprocesseurs, etc. Sauf que l'expérience qu'il offre aux patients est une expérience tout sauf technologique. Le patient se fout pas mal, et il a bien raison, de la technologie qu'il peut y avoir derrière. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que d'un seul coup, dans ce moment de vie qui a priori peut être suivi d'une absence de lendemain, alors que depuis qu'on est né, on a toujours un lendemain, ce qui est quand même assez pratique, là on va peut-être vivre un jour qui n'aura pas de lendemain, et ben on va lui proposer de pouvoir avoir un petit coup d'avance sur la mort elle-même, et qu'il saura toujours, lui, à quoi demain ressemblera.
Et pour avoir un petit coup d'avance, Yannick Granec, vous, on y revient, et c'est à nouveau, en particulier, ce qu'on trouve au début de chacun des chapitres du bal mécanique, ce sont les œuvres d'art. Parce que dans ce projet qu'évoquait à l'instant Mathieu Lehaneur, il se pique de connaître l'avenir et de le révéler à des gens qui sont à l'hôpital. Il cherche aussi à figer le présent, qui compte tellement. On parlait de voilà ce marbre liquide pour la Petite Loire. On est vraiment là-dedans, dans une vague figée pour l'éternité.
C'est l'éphémère,
oui. Vous dites qu'avec les œuvres d'art, Yannick Granek, vous parvenez à vivre comme les personnages de Van Eyck. Vous êtes une épouse Arnolfini.
Oh non, quelle horreur.
Et vous pouvez aussi savoir donc de quoi demain sera fait.
Non, pas du tout. Moi non plus, j'essaie d'être... Je suis ici en tant qu'écrivain, je ne peux que, a priori, que décrire mon petit présent. Après tout le reste, même dans le passé, et finalement de une évaluation, une estimation très, très, très inexacte. Mais je voulais rebondir, en fait, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, ça y est, j'ai l'esprit d'escalier, moi.
L'objet que nous décrivait Mathieu Vanna.
Oui, parce qu'à la différence.
Ce lendemain, en fait.
À la différence des étudiants du Bauhaus dont je peux décrire l'apprentissage et les travaux dans ce livre, donc en 1920, entre 20 et 30, ce que moi j'ai appris il y a 25 ans et les designers d'aujourd'hui, ce qui va être le design, c'est quasiment plus l'objet, c'est quasiment plus le matériel, c'est l'immatériel, c'est le service qui est maintenant le propre du design. Et que sont les nouveaux services? Donc apporter une fenêtre ouverte dans une chambre d'hôpital, mais c'est aussi quelqu'un qui imagine un jour qu'au lieu de vendre un disque, on va imaginer qu'il y a un tuyau qui va desservir de la musique dématérialisée, des livres dématérialisés. A priori, ça fait peur, mais c'est aussi ça du design, parce que c'est non seulement je vais déterminer ce nouveau service, et en plus je vais designer, c'est horrible, mais
créer la version physique de votre roman.
Ouais, j'espère bien. L'interface qui va faire accéder à ce nouveau service.
Je dessine, peut-être je peux la dessiner, c'est mon Francis. Mais vous avez un goût pour la complexité affirmée. Vous dites que finalement aujourd'hui il y aurait contrairement peut-être à une époque d'entre-deux-guerres où on s'intéresse justement aux strates, aux plis, comme dans la construction, l'architecture de votre roman, qu'aujourd'hui on simplifie, on cherche la solution minimale et qu'il faut recomplexifier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, Yannick Granek?
Oui, moi je suis atterrée par le flot d'images que je peux voir de temps en temps à la télévision quand je l'allume, aux raccourcis que je peux entendre parfois sur certaines radios, des conversations. Pas jamais sur France Culture, bien sûr. Non, mais par exemple, voilà. Parfois, j'écoute des interviews, des gens, on pose des questions complexes, ou même dans des conversations privées, dans des dîners. Et moi, je suis absolument statufiée, je suis gélifiée. C'est-à-dire que je me rends compte que je peux pas avoir une opinion. C'est impossible parce que la situation est tellement complexe qu'il faudrait... Donnez-moi 6 mois, je vous réponds. Et la plupart du temps, je vois les gens répondre du tac au tac et donner des opinions. Mais l'opinion n'est pas suffisante. Il faut avoir une réflexion. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus qu'on réclame de plus en plus d'opinions et de moins en moins de réflexions. Voilà, donc j'ai pas suffisamment là, du coup de une bonne rhétorique pour expliquer ça, mais
avec le bal mécanique, on a peut-être des armes pour réfléchir. C'est ça l'idée. Vous laissez quelques outils.
Oui, voilà, mais moi je suis
quelques mécanismes.
Je suis dans par l'écrit, par le fait de voilà, ça me prend 4 ans pour écrire un livre. J'ai besoin de que ça mature, que ça sédimente, pour que les choses se connectent. C'est pas simplement de la pulsion ou du cerveau reptilien. Il y a un moment, il faut laisser travailler son cerveau. Et justement, un outil, notre cerveau est un outil exceptionnel. Autant s'en servir un maximum, côté droit, côté gauche. La raison est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il faut du temps pour laisser la créativité s'installer. La créativité, c'est la connexion de choses qui, a priori, ne sont pas faites pour être connectées. Mais il faut, pour pouvoir connecter ces choses, il faut déjà qu'elles soient déjà là. Donc, il faut absorber, il faut écouter, il faut s'imprégner de la complexité du monde, de tous les domaines, et ce en quoi nos deux métiers se ressemblent. C'est-à-dire que le designer et le romancier ont des disciplines qu'on appelle systémiques. C'est-à-dire qu'on agrègue des informations, des données qui viennent de multiples domaines différents, que ce soit pour le design, la sociologie, l'esthétique, les choses plutôt techniques et industrielles, mais aussi parfois la philosophie.
Il y a même une dimension supplémentaire chez Mathieu Lehaneur, parce que vous parlez des limites de la raison et de l'opinion. Par opposition à la raison, il y a parfois la foi. Quand on parle de questions complexes, il y a la question de Dieu et vous vous êtes emparé à votre façon, on parlait de sédimentation aussi avec vous Yannick Granec, dans le cœur de l'église Saint-Hilaire à Mel dans les Deux-Sèvres, vous avez fabriqué un autel en particulier qui est fait de strates comme ça, sédimenté de marbre. Alors je me suis dit, s'empare de Dieu, mais on dit que c'est le diable qui est dans les détails, qui sont si chers aux designers. Alors est-ce que voilà, le diable ou Dieu se sont manifestés dans un détail, dans l'un de vos projets?
Mathieu Lehanne.
Ce projet, pour moi, c'est un peu à l'image du projet précédent que je vous décrivais dans l'hôpital. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. C'est-à-dire, c'est d'avoir des commanditaires, quels qu'ils soient, le plus différents possible et le plus éloigné a priori des champs habituels du design ou du designer. Et là, ce commanditaire n'était pas un chef de service d'hôpital, était un prêtre, un curé de campagne, 80 ans et quelques messes. Et il vient me trouver et il m'explique, voilà, j'ai une très belle église romane. J'ai compris que ça lui appartenait pas, mais qui date du XIe siècle, qui est magnifique. J'ai des fidèles et beaucoup de touristes qui passent par là. Et le cœur de cette église n'est pas du tout à la hauteur du bâtiment. Et mes fidèles sont assez respectueux et ils sont assez compréhensifs sur la pauvreté esthétique ou d'expérience que propose cet hôtel ou ce cœur. Mais le problème, c'est que les touristes traversent cet hôtel comme si... Enfin, pas l'hôtel, mais le cœur, comme si c'était une place de village. Et donc, il me dit, je voudrais que même un non-croyant, dont je fais partie en l'occurrence... face au cœur, sentent ou ressentent une expérience spirituelle. Et qu'ils sentent qu'effectivement, c'est pas n'importe quel lieu. Et que je n'y crois ou que je n'y crois pas, peu importe, mais que je veux sentir que c'était pas n'importe quel lieu. Et donc, il me livre un peu tout comme ça, un peu tout en pâture, si je peux dire. Il me dit qu'il faut qu'il soit un peu en hauteur pour des raisons évidentes d'orateur. Mais il me dit que cette mise en hauteur ne doit pas du tout être perçue comme une hiérarchie, parce qu'il veut pas du tout être sur une hiérarchie de valeurs vis-à-vis des
paroissiens.
Des paroissiens. Et il me dit, l'église est romane, mais je ne veux évidemment pas un geste liturgique qui essaierait de singer les églises romanes. Et je lui dis, ça tombe bien parce que c'était pas mon intention. Et donc, il me livre un peu comme ça, tout en peinture. Et donc, effectivement, je lui ai dessiné un cœur qui est effectivement constitué d'une succession de fines strates de marbre clair, presque blanc mais pas tout à fait blanc et mat, et qui en fait dessine une sorte de paysage, donc plutôt au niveau, ça crée des courbes, un petit peu comme des courbes de niveau, si vous voyez, une sorte de maquette d'architecture comme ça, une sorte de courbe de niveau. Donc c'est assez doux, mais évidemment très très éloigné d'un langage roman. Et il s'est passé une chose assez étonnante, c'est que moi, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est l'intuition, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous sentez que c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. Moi, mes clients, je propose toujours qu'une seule idée, je propose pas un carré rouge, un cercle noir ou un triangle jaune. Je leur dis, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, je leur présente cette idée-là. On était en phase concours et je me souviens le prêtre qui me dit, mais alors vous faites une magnifique allusion à Saint Jean ou Saint Paul, je l'ai oublié, s'endormant sur une pierre, parce qu'en fait ça ressemble effectivement à une sorte de gros bloc minéral émergeant du sol, et puis se réveillant et une église est faite autour de lui. Alors je lui dis, mais bien sûr mon père, c'est absolument ce que je voulais exactement, je voulais pas appuyer dessus dans ma présentation, mais c'était évidemment mon idée. Et le spécialiste des églises romanes qui était aussi présent me dit, mais en fait l'allusion que vous faites aux énergies telluriques qui étaient effectivement éminemment présentes à cette époque-là, et les architectes, les ingénieurs bâtissaient les églises non pas sur des considérations urbanistiques, mais parce qu'effectivement ils sentaient une énergie venant du sol ou du ciel, peu importe. Et c'est là que tu fais l'église, il me dit, mais c'est une très belle allusion. Donc aucune des deux, je n'y avais songé une demi-seconde. Par contre, effectivement, je crois beaucoup à cette complexité de l'intuition. Pour moi, l'intuition n'est pas une chose au rabais. C'est effectivement cette complexité qui nous assaille en permanence. Et comment, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, votre cerveau agglomère des choses, trie, filtre, ponce, découpe, crée des chimères qui vont effectivement produire du sens. Ça, je crois beaucoup à ça.
Si Gropius désirait que art et technique doivent former ou devraient former une unité, Il avait au début du Bauhaus l'obligation d'appeler des artistes, car un technicien qui aurait été artiste n'existait pas à l'époque. Donc Gropius, dans les premières années, a dû appeler des peintres, des plasticiens, des artistes pour collaborer à cette unité de conception de technique et art.
C'est un ancien élève du Bauhaus que vous entendez, donc qui témoigne à propos de la bande à Walter Gropius, Hans Meyer et Miles van der Rohe. Yannick Granek, j'ai envie juste, pour conclure cette émission, que vous reveniez sur cette formule que vous avez pu avoir à propos du Bauhaus et des designers aujourd'hui, en disant que finalement, aujourd'hui, un designer, il va regarder le Bauhaus comme un vieil oncle qui radote un peu, mais qu'on n'écoute pas parce qu'il a toujours des histoires à raconter. Enfin, on l'écoute quand même un peu. Et qu'on a une dette à l'égard de ce vieil oncle du Bauhaus. Alors, quelle dette on a à l'égard du vieil oncle ?
Bah absolument tout. J'exagère un tout petit peu, mais quasiment tout le design, enfin tout ce qu'on appelle le design, les protocoles de création et le rapprochement entre les créateurs et les artistes, et le process industriel est à peu près né là. Donc, il y a d'autres choses qui sont passées aussi en France, en Hollande et en URSS. Mais symboliquement, le Bauhaus est le berceau du design. Et tous les élèves en architecture, tous les élèves en design sont, comme on dit, biberonnés à ça. Ça fait partie de la culture de base.
Et on la perd ou pas aujourd'hui dans un design parfois qui peut être plus pièce unique, plus resserré par rapport à ce que proposait le Bauhaus et sa multiplicité, son projet d'époque.
Oui, mais contrairement à ce qu'on croit, le design du Bauhaus était plutôt pièce unique et resserré que vraiment industriel. C'était leur volonté
de devenir industriel.
Mais pour le coup, ils faisaient des pièces en très petite série et plutôt réservé à une élite. Donc s'il y a un petit échec du Bauhaus, il est là, mais parce que le process industriel n'était pas encore en place, ils étaient extrêmement en avance. Il faut savoir que ça se passait en 20, 25 et 30. Ce qui se produisait est encore tout à fait actuel aujourd'hui. Donc ils avaient trop d'avance, tout simplement.
Ping-pong. C'est déjà fini, mais on n'est pas en avance.
Merci beaucoup à tous les deux, Yannick Granek et Mathieu Lehaneur. Yannick Granek, donc, votre bal mécanique, c'est votre nouveau roman aux éditions Anne Carrière. Quant à vous, Mathieu Lehaneur, j'évoquais votre Petite Loire, donc ce marbre liquide qu'on peut retrouver au domaine de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 2 novembre.
Le ping-pong est un petit objet radiophonique sensible qui se dessine en équipe et quelle équipe à la rédaction. Aïssat Wendoy, Seam Boutata, Jeanne Léos et Lila Bozès à la réalisation. Thomas Beau à la prise de son ce soir, Jacques Azubert et Élise Le.
Lundi dans ping-pong, eh bien, le chanteur lyrique Philippe Jarouski et la commissaire de l'exposition Beethoven à la Philharmonie, Marie-Pauline Martin.